France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous au programme aujourd'hui, la seconde partie de l'émission de Pierre Bouteiller, comme de bien entendu, qui avait pour invité l'écrivain Philippe Solers en décembre 1997. En mélomane averti et passionné, Philippe Solers avait choisi son programme musical en prenant soin de sélectionner les interprètes des œuvres qu'il voulait entendre. Les interprètes pour lesquels Philippe Solers vouait une immense admiration. Au programme, Haydn, sous les doigts de la pianiste Catherine Collard, Daniel Barenboim dans les variations Goldberg, Thelonious Monk, mais aussi un extrait du Don Giovanni de Mozart, et pour conclure, la voix de Billie Holiday. Philippe Solers répondait aux questions de Pierre Bouteiller le 21 décembre 1997.
Philippe Solers, vous arrive-t-il d'être dans des états de dépression où la seule thérapie sera la musique ?
Non, ça va plutôt bien.
Jamais déprimé.
Ça va plutôt bien et je crois que c'est parce que la musique m'accompagne profondément, que je la sens en moi. Quoi. Je peux vous chantonner. Enfin, voilà. La musique me sauve.
Et ça passe par les interprètes toujours. Et de préférence, les femmes, ça nous amène au prochain disque. Ah. Une femme encore, Catherine Collard.
Mais oui, parce que celle-là, oui, malheureusement, qui a disparu. Et alors, pour jouer Haydn, vous savez, c'est probablement, les pianistes disent ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile à jouer. Parce que c'est, alors il faut arriver à une concentration, une légèreté telle que vraiment c'est très 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 difficile. Ça n'a l'air de rien, ça a l'air simple. Vous pouvez faire semblant d'être très compliqué. Et là, pour jouer de ça de façon cristalline, ah oui, Collard, oui, elle a fait des sonates de Haydn. Oh oui, quelle merveille, c'est vrai. Oh, là, on pourrait peut-être en écouter un peu, oui. Oh oui, oui, oui. Thank you. C'est la musique de papa. Papa comme l'appelait Mozart. Il ne faut pas oublier que Mozart appelait Haydn papa.
Ce choix, c'est pour Haydn ou c'est pour Catherine Colin?
Les deux. Là aussi, d'abord parce que j'ai une passion pour Haydn constante. Là encore, musicien de l'harmonie définitive, énigmatique, très secret. Et puis, je crois que pour jouer bien ça, il faut vraiment être assez exceptionnel. Cette femme l'a pas fait par hasard. Peu de musiciens se risquent à faire ça parce que c'est très, 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 très difficile d'arriver à cette rapidité, à cette légèreté, à cette nuance. Voilà. Et à cette philosophie. Je suis très triste qu'elle ait disparu, Collard. Je trouve que c'est une musicienne à qui on aurait dû rendre les plus grands hommages. Et je crois qu'elle n'est pas assez connue. C'est pour ça que je suis content d'écouter cette musique jouée par elle, qui est une musique de joie, d'harmonie, d'affirmation.
Je remarque, Philippe Solers, qu'entre autres dominante classique, je disais au début de l'émission, mais également il y a une dominante du clavier, une dominante pianistique tout le long de ce programme qui est le vôtre. Est-ce parce que, comme vous me l'avez dit, vous êtes un, disons entre guillemets, un pianiste rentré?
Je ne crois pas. Je crois que j'aime bien la position sur le clavier. Je trouve ça très. Je trouve que j'ai une prédilection pour les pianistes. Je crois que c'est un instrument magnifique qu'on peut transformer énormément. Argerich a toujours, on a l'impression qu'elle joue sur deux pianos à la fois. Sa main gauche est là-bas, très très loin. Et puis sa main droite est très très loin à droite. Et les autres ont l'air de jouer sur un tout petit piano, alors qu'elle est sur un grand piano. Pour Collard, vous aurez entendu que vraiment, c'est pour arriver à cette finesse dans l'aigu, je ne sais pas comment. Enfin, il faut penser à ça. Le piano, c'est de la pensée pour moi. Ou alors, on peut le traiter comme... Vous reconnaissez tout de suite un pianiste. Cette espèce de frappe. Comment mettre le corps au-dessus de ces touches blanches. Voilà. Donc on peut aussi le frapper d'une façon telle que ça ressemble à toute autre chose que ce qu'on entend d'habitude au piano. Par exemple, on peut prendre Thelonious Monk.
Oui, puisque bon, ça va être le prochain
disque. Parce que pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'entre Argerich et Monk, je trouve qu'il y a communauté de génie. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas devant cet instrument pour jouer, comme on dit, du piano. On arrive pour se servir du piano, et alors cet instrument s'y prête, hein, pour faire entendre tout à fait autre chose. Une espèce de méditation, de poids, presque métaphysique. Monk, c'est trois, quatre notes de Monk, on sait que c'est lui. Hein. On peut toujours s'inscriber au piano, on ne fera jamais aussi bien. Parce qu'il s'agit de vivre d'une certaine façon pour arriver à ça. Et je crois que le piano le démontre. Autrement dit, le piano, c'est la façon dont on peut démontrer qu'une certaine façon de vivre, qui va très loin, hein, parce que Monk, il faut dire sa biographie, c'est quand même pas rien, qu'une certaine façon de vivre peut aller jusqu'au bout d'une étrange certitude.
Alors, s'agissant de Monk, avant de l'écouter, on peut remarquer plusieurs choses. D'une part, comme vous l'avez dit fort justement, c'est que même s'il avait une technique relativement limitée, ce que certains lui reprochaient, il avait une identité tellement forte qu'effectivement, une seule note frappée par Monk, reconnaissait Monk. Voilà. Et c'est ça, la marque des très grands. Voilà. Il n'y a jamais trop de notes, mais il y en avait une qui était...
Il en suffit d'une, ou deux, oui.
Et puis d'autre part, on a souvent fait des comparaisons qu'il faut rappeler, que il était un peu au jazz, que Picasso avait été à la peinture, c'est-à-dire une sorte de déconstructeur pour mieux reconstruire.
Bah oui, mais si on veut dire ça. Et en même temps...
Non, vous n'avez pas l'air d'accord.
Et en même temps, oui, si on veut, oui. En même temps, Picasso, en effet, traverse toute l'histoire de la peinture. Moi, je crois que c'est encore une question de corps. C'est-à-dire, quelqu'un vous manifeste qu'il a ce corps-là. Et donc, voilà... C'est l'individu sous sa forme la plus irréductible. C'est le contraire de la musique militaire, si vous préférez.
Vous avez des choses à dire sur la musique militaire?
Non, non, non.
Hein, c'est l'optimisme au cœur des citoyens.
C'est l'absolu contraire. C'est-à-dire l'individuation poussée au fait que là, heureusement qu'il y a des enregistrements de ces gens-là. Imaginez tous les gens qu'on aurait pu enregistrer, si on avait Mozart au piano, Haydn aussi. Enfin bon, on s'amuserait beaucoup. On a la chance, depuis quelque temps, de pouvoir écouter des gens qui étaient ces espèces d'atomes irréductibles qu'on appelle parfois des individus.
Criss-cross par Thelonious Monk, un enregistrement qui remonte à 1972. Il y avait Al McKibben à la contrebasse et Art Blakey à la batterie.
Mmh. Alors, et l'insistance. Et on répète toujours la même petite chose. Et, ça peut, et c'est très agressif. Et c'est méchant. Et c'est insistant. Et puis non. Et puis c'est, ça se développe pas mal. Enfin, vous avez bien quelque chose à dire. Développer. Voilà. Où est le message ? On peut se répéter comme ça. Parce que c'est une façon de faire, faire sentir, pas didactique, de faire sentir qu'on parle à côté. Quoi. Bon. Les gens qui jouent bien, ils jouent à côté. Ils se branlent à l'extérieur, comme a dit Céline. Enfin, voilà, c'est ça. Et lui, non. Il est sur, parce que, parce que le son est miraculeux, parce que le son doit être de nouveau compris, réfléchi. C'est donc très, très subversif de faire ça. Hein, ça coupe court au bavardage, au programme, à l'illusionnisme généralisé, au bon sentiment, sur fond de massacre, etc.
C'est la musique anticonsensuelle.
À la publicité, c'est ça. Non, c'est très très bien. Et donc, moi je mets ça au niveau des plus grandes inventions musicales. À cause de... Ça s'appelle ne pas céder sur son désir. Voilà. Il ne faut pas céder.
Alors Philippe Solers, comment va-t-on établir une avant-dernière passerelle pour revenir de Monk à Mozart?
Ben alors celui-là, Mozart, il n'a pas cédé non plus sur son désir, hein, d'une certaine façon. Mais... Enfin, tout ça se joue à des niveaux différents, selon des époques différentes, mais on pourrait peut-être, en effet... montrer comment... Alors là, du coup, Mozart veut dire quelque chose de très précis, c'est dans sa philosophie, comment il dit non au désir de culpabilité qui obsède tout le monde, parce que vous savez qu'il faut que tout le monde se sente coupable tout le temps. Hein. Nous devons être coupables. Mais de quoi? Ah. Il y a ce mot de Hitchcock que j'adore, vous savez, c'est Truffaut lui dit, mais enfin, qu'est-ce que vous faites avec vos films, ça, il y a un sentiment de péché, de culpabilité, Hitchcock. Hein. Et Hitchcock lui dit, mais pourquoi vous me dites ça? Je n'arrête pas de parler de ce qui arrive à un innocent dans un monde coupable. Il faut pousser cette idée. Mozart est un innocent dans un monde coupable. Mais alors, il se fait représenter par Don Juan, et le commandeur rigole pas, hein. puis la fille est furieuse, puis la société n'est pas contente du tout, qu'il existe des gens comme ça, qui prennent leur plaisir un peu partout. Hein. Il faut qu'il soit coupable. Alors il dit non jusqu'au bout. Après ça, évidemment, on arrange l'affaire, à la fin, tout le monde est content. Mais moi, ce non jusqu'au bout, jusque dans le feu éternel, s'il le faut.
La scène de la repentance, pour reprendre un mot à la mode.
Moi, je crois que Mozart nous dit quelque chose qui le concerne très intimement, là, très intimement. Et c'est pas le doux petit Mozart, le petit Jésus Mozart, non, non, non. C'est quelqu'un d'héroïque qui va jusqu'au bout.
A che barbaro appetito! tempo con i danni gigante mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Nel vedere i miei bottoni, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Oh, che barbaro appetito, che bocconi da gigante. Nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir.
A che barbaro appetito,
mi par proprio di svenir.
Che bocconi da gigante,
mi par proprio di svenir. Li par proprio di svenir, li par proprio di svenir. Iappo! Servo!
Evviva i tuoi litiganti!
Resai le vino! Eccellente morti vino!
Questo pezzo di fagiano piano, 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 piano vuoi inghiottir.
Sto mangiando quel marrano, fingerò di non capir.
Questa poi la conosco purtroppo.
Leporello!
Padre mio!
Parla schietto, mascalzone!
Non mi lascio un'occasione, le parole proferir, le parole proferir.
Mentre io mangio, fischio un poco.
Non so far.
Cos'è?
Scusate, scusate. Sì, eccellente il vostro cuoco, sì, eccellente il vostro cuoco. E lo voglio anch'io provar, e lo voglio anch'io provar.
Sì, eccellente il cuoco mio,
sì, eccellente,
e lo voglio anche provar.
Viva
le femmine!
Ito to vero tempo non ha scusate. A torto di viltate, acciato mai sarò. Risolvi, o già risolto, verrai. Dite di no, dite di no, o se
Don Giovanni, c'était Dietrich Fischer-Dieskau, le commandeur Marti Talvella et Leoporello Elzio Flagello dans cet enregistrement dirigé par Carl Böhm à la tête de l'orchestre du Théâtre National de Prague. Et voilà, je voulais dire, la distribution dans cette scène qui vous tient à cœur, Philippe Soler, c'est pour rien au monde, vous n'auriez voulu que nous passassions ce qu'il y a après.
Mais après, la petite troupe revient, le méchant a été puni, et tout le monde se félicite d'avoir mis le diable en enfer. Mais moi, évidemment, c'est un morceau extraordinairement dramatique. Ou ce qui me plaît, moi, c'est que à quelqu'un qui n'arrête pas de vous sermonner, Ben Titi, on réponde non. Une fois, au moins, au monde, quelqu'un a écrit ça, c'est-à-dire Mozart, Lettre de liberté absolue, selon moi. Et au moins, la loi a été convoquée depuis les morts, hein, pour dire qu'il fallait se repentir, et il aura fait crier à quelqu'un non. Alors bien entendu, c'est comme c'est pas recevable par la société, et qu'il faut vite se presser de dire que c'est pas possible, que tout le monde en effet est coupable, et doit l'être, parce que nous avons tous quelque chose à se reprocher, puis nous sommes tous marqués du péché originel, ça se voit, je vous regarde et je vois que oui. Et donc nous sommes tous coupables pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas laquelle, et même, vous savez que Kafka a brodé beaucoup là-dessus, et comme nous sommes à Prague, il ne faut pas oublier que justement Casanova, Da Ponte, Mozart à Prague en 1787 étaient là tous les trois en train de comploter cet opéra, et que c'est vraiment un des moments les plus beaux de la conscience de l'histoire humaine.
Bon. C'est l'un de vos opéras de fétiche, de prédilection?
Pour l'opéra, je n'aime, je vais vous faire un aveu, mais c'est ce que je sens, je n'aime que Mozart. On n'a pas, selon moi, écrit de plus grands opéras, de plus grands opéras que ceux de Mozart, à moins d'aimer Wagner. Alors ça, nous changeons de monde et ça n'est pas ma philosophie de l'existence. Voilà. Oui.
Non. Apparemment, c'est une autre conversation. Voilà. Avant-dernier disque, Philippe Solers, du piano encore, du Bach encore. Je dirais, cette fois, c'est un homme.
Alors, c'est Barenboim qui joue ça, les variations Goldberg, à mon avis, admirablement, mais je trouve le moment intéressant, parce que c'est un concert public. De temps en temps, on entend à peine une petite toux, très discrète. Les gens n'osent pas tousser tellement c'est beau. D'habitude, vous en faites...
Bon. Non, la toux a été remplacée par les téléphones portables.
Voilà, c'est ça. Et donc, ça se passe à Buenos Aires, je crois, il y a presque 10 ans. Et au Théâtre Colonne. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Voilà, quelque chose de je sais pas, la lune, le soleil sont tombés sur Barenboim. Et il se trouve qu'il est... Ça m'intéresse beaucoup. Quand un type arrive... c'était ce soir-là. Peut-être que ça ne s'est pas reproduit depuis. Les variations Goldberg. Alors je trouve qu'après Don Juan, on revient à la table de travail. Et on voit comment la musique se fait. Et là, c'est une démonstration, encore une fois, de sérénité totale.
Thank you.
Des variations Goldberg par Daniel Barenboim que vous avez choisi pour le compositeur, pour l'interprète.
Et pour le moment où ça a été joué, voilà. Et ben voilà. Donc je crois que ça va comme ça.
Ça va comme ça avec le dernier disque qui ça va être une façon de prendre congé.
On va faire partir Jean-Sébastien Bach avec une femme de qualité.
Avec Billie Holiday.
Oui, je crois que ça serait bien.
Cost me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man. It's my man. Cold, wet, tired, you bet. All of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks, he's no hero out of books, but I love him, yes, I love him. Two or three girls says he, that he likes as well as me. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his.
My Man, Billy Holiday, il y avait des façons plus désagréables de se séparer, Philippe Solers.
Mais je crois que ça renvoie chacun à sa jouissance, s'il en est capable. Ou elle.
Ce sera le mot de la fin.
C'était, comme de bien entendu, l'émission dominicale de Pierre Bouteiller qui recevait en 1997 sur France Musique l'écrivain et mélomane Philippe Solers. Cette archive est disponible grâce au podcast sur le site radiofrance.fr ou via l'application Radio France. Merci aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration et à Émilie Valla pour la réalisation. réécouter sur francemusique.fr.